comprends pas. Après cette petite pause. Ciao Olivier. Alors, moi je suis pas là pour vous faire une communication, mais je vais lire la communication de Florence Plénicolas qui aurait dû être là si elle l'avait pu, mais malheureusement, à cause des grèves SNCF qui ne sont pas de notre ressort, on a donc dû faire quelques ajustements. Donc je vais vous lire sa communication qui traitait en fait de la réappropriation du mythe de Tristan et Iseut dans la bande dessinée. Et finalement, des tentatives d'acclimatation d'un mythe subversif. Donc je serai aussi tout aussi incapable que Tristan de répondre à vos questions, étant certes médiéviste, mais complètement pas du tout au fait de Tristan et Iseut. Donc je vous prie de... Mais on a des gens qui sont spécialistes, donc vous pourrez peut-être poser des questions. Tout d'abord, à côté d'un roi Arthur très présent dans la bande dessinée, depuis les années 30 avec la série Prince Vaillant dont on a déjà parlé, le couple de Tristan et Iseut peut sembler quelque peu délaissé par la figuration narrative. Florence Plénicolas se propose donc de replacer dans la brève histoire paralittéraire de la bande dessinée les tentatives d'acclimatation de ce mythe. Tout d'abord, la bande dessinée concernant le sujet de Tristan et Iseut s'oppose au traitement cinématographique qui lui a été réservé dans la mesure où le cinéma s'est très tôt emparé du mythe. Avec l'exemple du film ici présenté, et alors que la bande dessinée n'a guère donné d'exemple d'adaptation avant les années 80. De plus, la loi dont l'article 2 est ici mis en avant, la loi de 1949 qui traitait de la réception des bandes dessinées par la jeunesse, mettait en avant limitait en fait finalement l'utilisation et la présentation de la violence et d'autres formes de déviation morale, je cite, hein, comme par exemple l'exploitation du thème de l'adultère, ce qui est particulièrement le cas pour Tristan et Iseut. Et ce n'est donc que à partir des années 80 que le corpus a pu légèrement s'étoffer et du moins se développer sur des thèmes qui sont peut-être un peu plus adultes. Pour autant, comme en témoigne cette chronologie rapide, la plupart des titres présentés ici sont très loin d'être subversifs. Il reste néanmoins des présentations assez plus ou moins complètes, justement, on va s'y attarder, du mythe de Tristan et Iseut. Tout d'abord, la matière tristanienne a largement été absorbée par la BD arthurienne. En fait, tout simplement, le mythe de Tristan a été relu et repris par le mythe arthurien, comme au Moyen-Âge, finalement, dont témoigne le Morte d'Arthur, qui est donc la mort du roi Arthur, de Thomas Malory, qui aussi reprend le personnage de Tristan. Ainsi, Tristan fait-il souvent partie de l'entourage d'Arthur dans des séries consacrées au roi. Donc là, on a l'exemple en haut à gauche d'un comics paru chez DC qui s'appelle Camelot 3000, qui est les chevaliers de la table ronde en l'an 3000. Donc c'est un tantinet de la science-fiction. Mais où Tristan est un personnage original parmi les chevaliers de la table ronde, réincarné en l'an 3000. On en a d'autres exemples, comme dans les héros cavaliers, où il apparaît sporadiquement à la cour du roi Arthur, avant d'être oublié dans les derniers tomes. Et enfin, dans la plus récente Arthur, une épopée celtique, donc présentée tout en bas, on a un tome consacré entièrement au mythe de Tristan et Iseut. Cependant, les tentatives de lui consacrer un cycle entier sont rares. Il y a eu La quête de la fille aux cheveux d'or, qui est parue dans la collection Histoire et légende, mais qui n'a fait qu'un tome et qui n'a pas eu de suite. Et cependant, la trilogie des seigneurs de Cornwall a pu apparaître comme une série complète, et c'est la seule série qui a traité entièrement du mythe, tout en s'en éloignant notablement, même et d'autant plus qu'elle a peiné à arriver à son terme. Enfin, Finalement, qu'en est-il du mythe de Tristan lui-même? Quand Tristan se détache d'Arthur, la légende est en général fortement réinterprétée, voire méconnaissable, sinon méconnue. Comment témoignent ces différents titres? Tout d'abord, le titre qui est tout à votre gauche, donc à ma droite, qui s'appelle Tristan, qui reprend le mythe de Tristan pour en faire un ménestrel à la recherche de son amour Isandrel. Donc on est quand même dans une proximité dans les noms, mais on est très loin de la série en elle-même et du mythe en lui-même. On a aussi une adaptation plus japonisante, le titre de Chris, la série Naomi, donc le sous-titre s'appelle Les Noisettes Magiques, qui adapte donc très librement les sources de Tristan Iseut. Et enfin, une parodie dans la série Merlin qui s'appelle Tartine et Iseult. Donc on voit que plus généralement, le mythe sert les grandes trames narratives plus que des grandes trames narratives reprises plutôt que une réinterprétation stricto sensu. Les variations dans le traitement de la matière sont par ailleurs conformes à ce qu'on trouve pour Arthur, à savoir un Moyen-Âge idéalisé qui dominait jusqu'aux années 60 et qui peu à peu laisse la place, comme la collection vécue chez Glénat, à un Moyen-Âge nouveau qui se veut plus antique ou plus authentique et qui n'hésite pas à ancrer sa narration dans les siècles, dans le 6e, 5e, 6e, 7e siècle. L'intrigue politique qui lie dans cette édition, dans ce qu'on appelle l'histoire vécue, dans la collection vécue, pardon, l'intrigue politique qui lie les amants de Cornouailles dans les deux premiers tomes de cette collection est délibérément traitée de façon triviale, dépourvue de tout merveilleux. Donc on est bien dans une reprise ou une volonté de reprise du Moyen-Âge éloignée de l'héroïque fantasy, et elle finit d'ailleurs par se diluer de tome en tome dans un récit assez décousu. Simultanément, le légendaire celtique est toujours exploité par des auteurs soucieux de documentation comme dans La quête de la fille aux cheveux d'or. Et dans Dristan et Isildur, donc c'est le cinquième tome de la série Arthur, et en fait, l'un et l'autre sont très documentés, ils font de réels choix esthétiques, ils sont très différents l'un de l'autre, mais le second peine à représenter la passion amoureuse, là où le premier, malheureusement inachevé, paraissait plus pertinent et plus traité de manière plus intéressante. Enfin, surtout, la vogue de la fantaisie celtisante a repris à son compte le mythe de Tristan et Iseut en l'englobant dans le mythe arthurien général. On a par exemple les seigneurs de Cornwall, série qui peine à se distinguer du tout venant made fan de l'aveu même des critiques, ou encore certains autres titres, on voit bien que le traitement réservé aux personnages est bien dans la manière de soleil celtique, à savoir des filles plutôt dénudées, qui font de la magie, qui ont tendance à, avec des grands effets généraux au niveau des cases. Enfin, l'humour est sous-représenté concernant le mythe de Tristan et Iseut, donc ce tome conserve à peine plus que les noms des héros pour proposer une joyeuse pochade sans complexe, je cite. À noter cependant quelques pages consacrées à Tristan Iseut dans Mes Hommes de Lettres de Catherine Meurice, qui est une BD à la fois humoristique et didactique et qui présente l'histoire littéraire française dans une démarche très personnelle et originale, mais la brève adaptation du mythe n'a de fait que peu de valeur puisqu'elle est traitée en trois pages. On notera toutefois que la première version, là on a la première version qui est tout à votre droite, la première version était encore plus édulcorée que la seconde. Au total, ce qu'on peut dire à propos du mythe de Tristan et Iseut, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réussite à ce jour en bande dessinée, aucune œuvre marquante ne se dégage. Au mieux, c'est un tome un peu décevant dans une série excellente par ailleurs, la fameuse épopée celtique Arthur, ou un cycle prometteur avorté, comme La quête de la fille aux cheveux d'or. Et sinon, c'est un mythe qui est repris, certes, mais de manière inachevée, fragmentée, dénaturée, et qui semble finalement caractériser la matière tristanienne en BD, comme si le mythe subversif dont parlait Jean-Charles Payen restait impossible à couler, tel quel, dans une culture commune, comme si finalement l'impossibilité de la clôture maintenait le corpus tristanien, pardon, dans la division, en Europe du moins, puisque la très intéressante adaptation américaine en comics qui s'intitule Kaamelott 3000 présente finalement une version surprenante et originale du thème et du couple divisé. Voilà.
N'est pas là, mais pour avoir tout dernièrement nous envoyer ses notes, son PowerPoint, etc., alors que les conditions matérielles ne permettaient pas. Et je remercie également donc Béatelon Gungrour qui est ici, que j'ai contacté hier et qui a bien voulu au pied levé reprendre.